Alors, je vais d'abord vous donner le plan du cours. Hein. Alors, la première, donc, je vais commencer par vous rappeler, je pense que c'est important pour vous, pour bien situer les choses, la naissance et la consolidation de l'islam. À moins que vous connaissiez tout ça par cœur. Bon, alors c'est bien ça. Le point de départ. Naissance et consolidation de l'islam. Ensuite, la deuxième partie, ce sera le Dieu du Coran. Comment le Coran envisage Dieu. Troisième partie, l'islam comme religion abrahamique, puisque vous savez, je pense que l'islam se réfère à Abraham. Quatrième partie, l'islam comme religion du livre. C'est comme ça qu'il se qualifie aussi. Après, cinquième partie, la vocation et la destinée de l'homme dans l'islam. La sixième partie, je vais donc présenter quelques aspects particuliers relatifs à cette vocation et à cette destinée. Bon, la question des droits de l'homme, les rapports avec les non-musulmans, le mariage et la femme. Si on a le temps, un peu de bioéthique, on verra. Ensuite, septième partie, la dernière, les causes de l'expansion de l'islam et l'Église et l'islam. Ce sera une seule partie, ça. Les causes de l'expansion de l'islam. Pourquoi l'islam s'étend? Et l'attitude de l'Église envers l'islam. Avec là, il y aura pas mal de réflexions personnelles de ma part. Voilà, alors je vais aussi donner quelques précisions concernant le contenu de mon cours. Vous allez voir que je vais donner la priorité à la doctrine. Voilà, à l'instant, je pense à une phrase que le pape Jean-Paul II avait écrite dans une exhortation apostolique qui s'appelait « Ecclesia in Europa », l'Église en Europe. Cette exhortation a été publiée en 2003. Et le pape consacrait un paragraphe sur la présence de l'islam en Europe. Et il disait que les catholiques doivent s'efforcer d'avoir un rapport juste avec l'islam, un rapport juste. Donc c'est une démarche de vérité en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il est très important de connaître la doctrine. Ça permet de comprendre la cohérence interne de la religion musulmane et de connaître les musulmans en vérité. Et ça permet aussi d'aborder les différences avec le christianisme. À plusieurs reprises, vous verrez, je comparerai avec le christianisme. Ça permet de les aborder, ces différences, d'une manière sereine. Considérer les différences, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est au contraire le respecter dans ce qu'il croit, dans ce qu'il pense et dans ce qu'il vit. Donc il ne s'agit pas de porter de jugement de valeur, mais d'exposer. Aujourd'hui, vous savez, on est très souvent soumis à l'emprise de l'émotion. Et ce n'est pas bon du tout. Ça, l'emprise de l'émotion, si on est mu que par celle-ci, conduit parfois à l'irrationalité. Donc et le pape Benoît XVI insiste beaucoup, vous vous en rendez compte, je pense, sur l'importance de la raison pour envisager des réalités qui nous sont étrangères, par exemple, qu'on a du mal à comprendre. Donc c'est pourquoi il est si important de mettre l'accent sur la doctrine, sur la réflexion. Donc on ne peut pas se contenter d'approches émotionnelles, ni même sociologiques. Et puis, vous allez le voir vite, la manière dont l'islam envisage Dieu conditionne l'anthropologie islamique. Les deux sont liés. On pourrait dire quel Dieu pour quel homme, si vous voulez. Et puis un dernier point, au-delà de l'étude des doctrines, il y a le regard à porter sur les personnes. En tant que chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu aime toutes ses créatures, pas seulement les baptisés. Il aime aussi les musulmans, donc. Et donc, nous devons entrer dans un regard de bienveillance sur les personnes qui professent la religion musulmane. J'espère que plus tard dans la journée, vous me direz si vous rencontrez des musulmans, si vous avez déjà réfléchi à la question et tout ça. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà, alors, première partie, donc. La naissance et la consolidation de l'islam. Alors, pour vous exposer tout ce qui va suivre, je fais appel à trois sources principales. Je vous donne ces sources. D'abord, le Coran, bien entendu, indispensable. J'aurai l'occasion de vous expliquer, bien sûr, le statut du Coran pour les musulmans, de quoi il s'agit, etc. Première source, le Coran. Deuxième source, la Sunna. Ça s'écrit S-U-N-A. S-U-N-A, ça veut dire en arabe, c'est un mot arabe qui veut dire tradition, Sunna. Tradition, mais tradition prophétique en fait. C'est tout ce qui s'attache à l'enseignement de Mahomet. Parce que la Sunna a une très grande importance pour les musulmans dans la mesure où elle éclaire et complète le Coran. Et puis la troisième source, il s'agit de la Sira, S-I-R-A. La Sira, c'est la biographie officielle de Mahomet. Mahomet, bien sûr, personnage central pour les musulmans, mais on va y revenir. Alors je voudrais aussi vous faire une remarque en préalable. Tout ce que je vais vous exposer, donc, c'est, je me réfère pour cela à tout ce que nous avons, que le monde non musulman a reçu de la tradition musulmane depuis des siècles. Mais c'est indispensable pour connaître donc la manière de croire, de vivre, de penser des musulmans. Mais il faut savoir qu'à notre époque, il y a des bouleversements en préparation sur le plan intellectuel concernant les origines de l'islam. Et de nombreux chercheurs maintenant essaient de pratiquer de l'exégèse sur le Coran, sur la tradition de Mahomet, etc. Et on découvre certains aspects qu'on ne voyait pas auparavant et qui sont très intéressants et qui risquent même de bouleverser complètement ce que la tradition musulmane nous transmet depuis des siècles. Il y a même des chercheurs qui sont sérieux, hein, qui mettent en cause, par exemple, l'existence de la Mecque, la ville de la Mecque. Alors, on dit que Mahomet aussi parfois a été un personnage créé de toutes pièces. Moi, je ne m'aventure pas là, non pas que ça ne m'intéresse pas, bien entendu, c'est le contraire, ça m'intéresse beaucoup, mais mon but, ce n'est pas de vous lancer dans cette aventure, mais de vous aider à comprendre les musulmans tels qu'ils sont et tels qu'ils croient et pensent aujourd'hui. Surtout que ces travaux dont je viens de parler ne sont jamais pratiqués par des musulmans. Hein. C'est toujours en dehors de l'espace musulman que ces travaux donc sont réalisés. Mais enfin, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Voilà. Alors, nous commençons donc avec un peu d'histoire. Tout tourne autour de Mahomet, bien sûr, quand on parle de l'islam. Donc, je vais vous dire quelques mots sur ses origines, encore une fois, telles qu'elles sont transmises par la tradition. Alors, Mahomet serait né donc en 570 de notre ère, 570 après Jésus-Christ, à la Mecque. La Mecque, vous voyez où c'est, hein, en Arabie. Vous avez un peu la géographie dans la tête, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de grande carte, c'est dommage, oui. Bon. Alors, bon, la Mecque, c'est dans la partie ouest de l'Arabie, saoudite aujourd'hui. C'est pas loin de la mer Rouge, la mer Rouge qui longe l'Égypte de l'autre côté. Alors, Mahomet serait né là, dans une grande famille. Au Proche-Orient, on parle des tribus, vous savez, pour l'organisation sociale. Alors, ce n'est pas péjoratif, ça l'est devenu chez nous, mais il n'y a aucune raison que ce soit péjoratif. C'est le mode d'organisation des sociétés encore au Proche-Orient aujourd'hui. Si vous avez même suivi les derniers événements en Libye, on a beaucoup parlé des tribus dans la révolte libyenne. C'est ainsi que sont constituées les sociétés arabes, disons. Alors, Mahomet est né donc dans une tribu, la tribu des Quraysh. Je vous dis le nom parce que ça va vous servir après à comprendre certains aspects de l'actualité. Quraysh, ça s'écrit Q-O R-E-I-C-H-E. Et au sein de chaque tribu, il y a des clans. C'est la famille au sens large. Et il était né dans le clan des Hachem. H Achem. Je vous dis un mot tout de suite. Quand on parle du royaume de Jordanie, on a l'habitude de parler de la dynastie hachémite. Vous entendez peut-être parfois ça. Ça vient de Hachem, c'est-à-dire que le roi actuel de la Jordanie, qui s'appelle Abdallah II, est un descendant de Mahomet, parce qu'il est né dans le clan des Hachem. Vous voyez ? Dans l'histoire, il est né à notre époque, mais dans la lignée de Mahomet, avec le clan des Hachem. Donc quand vous entendez dynastie hachémite, vous pouvez comprendre qu'il y a un lien de parenté entre l'actuel roi de Jordanie et Mahomet.